Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Un manque d'eau potable, vraiment? Alors pourtant, il suffit de se pencher pour puiser dans les mers et les océans. En 2023, il existait près de 20 000 usines de dessalement dans le monde, fabriquant 115 millions de mètres cubes d'eau douce par jour. Alors, solution miracle ou mirage? Une chose est sûre, le dessalement est l'un des enjeux de sécurité alimentaire et de souveraineté, même si son empreinte carbone reste encore beaucoup trop importante. Pour en parler, je reçois Franck Galland, fondateur et dirigeant de la société Environmental Emergency and Security Service, un cabinet d'ingénierie conseil dédié à la résilience urbaine. Bonjour Franck Galland.
Bonjour.
Vous êtes également chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique. Alors ça marche vraiment, la techno du dessalement?
Les 40 dernières années le prouvent quotidiennement. Vous avez dit en introduction que chaque jour étaient dessalés 115 millions de mètres cubes de par le monde, essentiellement au Moyen-Orient, puisque 60% des capacités installées de dessalement sont dans les pays du Golfe. Et en fait, quand on regarde cette terre sur laquelle nous vivons, elle est recouverte à 75% d'océans et de mer.
Bah oui.
97% des volumes d'eau sont de l'eau saline. Et aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit que démographiquement, 25% de la population vit à moins de 25 km d'une côte.
Ouais.
Donc effectivement, le dessalement a su s'imposer là où il n'y avait plus d'autre choix, en particulier dans ces pays du Golfe, mais également en Afrique du Nord et aujourd'hui sur l'Asie, et nous en parlerons. Et au-delà de ça, ce dessalement est un mirage devenu réalité.
D'un point de vue techno, est-ce qu'on a évolué ou pas ces 40 dernières années?
Alors, on a fait énormément de progrès sur l'empreinte énergétique des stations de dessalement. Aujourd'hui, pour dessaler un mètre cube d'eau de mer, c'est 2,5 kWh.
Ouais.
C'était 12 kWh il y a encore 30 ans avec des procédés de distillation.
Ouais, mais je crois que c'est encore au-dessus du recyclage, on est d'accord.
Alors, c'est au-dessus de la réutilisation des eaux usées pour en faire de l'eau douce, où vous êtes à 1 kWh par mètre cube, et c'est encore au-dessus, c'est 5 fois supérieur à un traitement d'eau de surface pour en faire de l'eau potable, qui est à 0,5 kWh par mètre cube. Donc, l'empreinte énergétique du dessalement a considérablement diminué. Le coût également d'un mètre cube d'eau dessalée a considérablement diminué. Au-delà de ça, on a un procédé qui s'est largement imposé. Aujourd'hui, 2/3 du parc, vous parliez de 20 000 usines de dessalement dans le monde, 2/3 du parc aujourd'hui, c'est de l'osmose inverse.
Oui.
C'est-à-dire on va passer sous très très haute pression, dans des membranes, une eau dessalée pour séparer les impuretés de sel de l'eau douce.
Oui.
Et en fait, ces progrès continuent de se faire, puisqu'on attend aujourd'hui beaucoup de miracles du couple énergie solaire et dessalement, et potentiellement demain, du couple nucléaire et dessalement.
Avec les petites centrales
SMR.
Ouais. Alors, 95 millions de mètres cubes d'eau dessalée, c'est 100 millions quand même de tonnes de CO2.
Bon. Alors, c'est le vrai sujet. Et ça, c'était en 2001. Les Nations Unies, effectivement, avaient donné ce chiffre. On était à 95 millions de mètres cubes d'eau dessalée par jour. On est à 115 millions aujourd'hui. Et à l'époque, effectivement, c'était ces tonnes de CO2 qui contribuent au réchauffement de l'atmosphère.
Ouais. De l'eau potable, certes. Mais avec toutes les qualités nutritionnelles ou pas, non?
Ah oui, absolument.
Si
absolument.
Il y a les minéraux.
Quand l'eau est mise dans le réseau après un processus de dessalement, donc elle est reminéralisée, elle peut être consommée à des fins de consommation humaine, pour l'hygiène comme pour l'eau technique.
D'accord. Donc on disait que c'était vraiment une question de souveraineté et de sécurité alimentaire, on comprend. On disait justement que les pays du Golfe représentaient près de 60% de la production, de la capacité mondiale, et 40% de la production. Pourquoi c'est devenu une question sécuritaire pour ces pays?
Parce qu'ils n'ont plus d'autre choix. Aujourd'hui, 70% de l'alimentation en eau de l'Arabie Saoudite vient du dessalement. C'est 42% aux Émirats. Aux Émirats, vous avez les deuxièmes capacités de dessalement installées au monde. Mais les Émirats sont sur des logiques de stockage stratégique. C'est-à-dire qu'ils vont dessaler de l'eau de mer, ils vont les réinjecter dans les nappes pour permettre à une ville comme Abu Dhabi d'avoir
dans
de
les
l'eau sur
phréatiques.
Plus... Exactement. C'est ce qu'on appelle la recharge artificielle de nappes. C'est-à-dire qu'on va dessaler de l'eau de mer et on va la réinjecter dans les nappes pour la rendre prisonnière et pour faire des stockages d'eau stratégiques.
C'est ce que fait le Qatar aussi, ou eux construisent des réservoirs
le fait, exactement, le Qatar le fait différemment. C'est-à-dire le Qatar a fait le choix, juste avant la Coupe du Monde de football, de construire les plus grandes réserves d'eau douce construites de la main de l'homme de la planète. C'est 10 millions de mètres cubes d'eau dessalée qui sont rendues prisonnières dans d'immenses réservoirs. C'est pour permettre au Qatar de passer de 2 jours de réserve à 7 jours de réserve. Ouais. Avant cela, malgré leurs 2 stations de dessalement devenues 3, ils n'avaient que 2 jours de réserve. Ce qui fait que la moindre pollution chimique en mer d'Arabie, la moindre nappe d'hydrocarbures, sans compter des menaces diverses et variées, ouais, de missiles, on ouais voit bien que les Houthis ont eu, depuis le Yémen, la volonté de cibler des infrastructures en Arabie Saoudite et de cibler des infrastructures aux Émirats, sans compter les menaces, les cybermenaces pouvant toucher des systèmes d'information industrielle. Il est clair que le dessalement est la solution d'ultime secours, le recours, mais ce dessalement est vulnérable. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de stockage stratégique dans ces pays du Golfe.
Il n'y a que les pays du Golfe qui ont cette approche sécuritaire et stratégique, ou on trouve d'autres pays ?
Maintenant, je dirais, le royaume du Maroc a fondamentalement besoin du dessalement. C'est-à-dire que pendant des dizaines d'années, le Maroc comptait sur des infrastructures de stockage d'eau de pluie. Ouais. Sauf que le changement climatique a eu pour conséquence une modification des régimes pluviométriques. Et aujourd'hui, vous avez des barrages qui sont pleins à 20-30% au maximum au Maroc. Et donc, Sa Majesté Mohamed VI a annoncé d'importants programmes de dessalement. La première pierre d'une usine qui sera à Casablanca a été inaugurée le 10 juin 2024. C'est le prince héritier, le prince Moulay Hassan, qui a inauguré cette usine. Lors de la visite du président Macron à Rabat, une autre usine de dessalement a été annoncée sur Rabat Salé, un projet développé avec Veolia. Et ce sont des usines immenses. Mmh. C'est 4 fois l'usine de Barcelone. Vous savez, l'usine de Barcelone, qui est la plus grosse d'Europe, c'est 200 000 mètres cubes jour. Et bien là, on est sur du 800 000 mètres cubes jour sur les deux stations à 800 000 mètres cubes jour qui seront les plus grandes d'Afrique.
Et même les Californiens s'y mettent.
Ah ben parce qu'ils n'ont plus d'autre choix également. C'est-à-dire qu'on a la Californie qui a un PIB supérieur à ouais celui de l'Allemagne, qui se doit d'aller vers le dessalement. Ils ont inauguré en juin 2024 à San Diego la première grosse station de dessalement de la Californie.
Qui est en capacité.
En termes de capacité, elle est au-delà de 100 000 m3 jour.
Ouais. Donc on revient sur l'Europe, où on a dit que l'Espagne était le plus gros producteur. Il n'y a que l'Espagne ? Nous, ça ne nous intéresse pas
Alors, l'Espagne, effectivement, est historiquement le plus gros producteur d'eau dessalée en Europe. C'est 700 stations de dessalement, dont 70 qui sont en bord de mer. C'est-à-dire qu'ils dessalent aussi de l'eau saumâtre, c'est-à-dire de l'eau qu'on peut trouver dans des nappes, qui est moins chargée en salinité que l'eau de mer. Mais effectivement, l'Espagne, champion européen dans ce domaine. L'Italie a annoncé, suite aux sécheresses de 2022, un gros programme de dessalement pour effectivement doter la péninsule italienne de stations très vraisemblablement d'osmose inverse.
Et notre sud-ouest
alors,
qui souffre.
Alors, derrière, si vous continuez en Méditerranée, vous avez Malte qui en dépend aujourd'hui à 100%. Vous avez Chypre. Alors, l'empreinte énergétique est très importante puisqu'on considère que le dessalement à Chypre, c'est 6% de l'énergie consommée sur l'île de Chypre. Mais il est très intéressant de voir que d'ici 2030, on estime que sur cet espace méditerranéen, vous aurez chaque jour produit entre 30 à 40 millions de mètres cubes. Donc c'est un progrès colossal. Et quand on regarde les perspectives d'investissement sur les 4 prochaines années, on parle de 43 milliards de dollars dans le monde, dont 67% sur la zone Afrique du Nord, Moyen-Orient. Ouais, et une partie de ces montants seront effectivement polarisés sur la zone méditerranéenne.
Juste une question, nous, ça ne nous intéresse pas, les Français.
Ça devrait nous intéresser.
Oui, vous alertez ou pas ?
Pour tout un tas de raisons, aujourd'hui, on a fait le choix de la réutilisation des eaux usées. Le président Macron a annoncé d'ici 2030 10% de réutilisation des eaux usées en France. C'est déjà 15% en Espagne, c'est 8% en Italie. Et aujourd'hui, on est à moins de 1%. Donc on a fait ce choix-là, mais je suis absolument convaincu qu'on devra faire le choix du dessalement sur des départements, notamment les Pyrénées-Orientales.
Ben oui, je parle du sud-ouest.
Qui conservent cette tache rouge, c'est-à-dire que tant au niveau des nappes qu'au niveau des cours d'eau. Et puis, je dirais que les perspectives à 2050 ne sont absolument pas encourageantes. On estime qu'en France, on aura une baisse de 20% du débit des rivières et de 30% du niveau des nappes. Mais des territoires comme les Pyrénées-Orientales, qui sont déjà très touchés par les effets des sécheresses de longue durée, qui ont des besoins d'eau pour l'agriculture, pour le tourisme, pour une vocation domestique. Et quand on fait 30 km plus au sud, on traverse la frontière espagnole, on a déjà les stations d'essalement. Donc il va falloir s'harmoniser sur ce sujet.
Il me reste une minute, une question. Il y a une grosse compétition, du coup, entre les entreprises qui apportent ces usines.
Oui, vous avez raison. Alors, bien sûr, des grands groupes français, Veolia avec Sidem, Suez. Mais aujourd'hui, la compétition vient d'Espagne. Les entreprises espagnoles sont excessivement présentes sur les marchés internationaux. Et la Chine se met à rentrer sur le marché. Aujourd'hui, le dessalement en Chine, c'est 1,5% des capacités de production d'eau douce que vous avez sur ce pays. Mais la Chine n'a plus d'autre choix. Et donc, vous avez des entreprises chinoises comme SEPCO, par exemple, basées dans le Shandong. Donc là, on est sur Tsingtao, qui est le berceau du dessalement en Chine, et qui va en Arabie Saoudite. Les Chinois...
Et qui cassent les prix ou pas ?
Alors, ils ont, de ce point de vue-là, du savoir-faire économique, financier et technique. Donc, je vous laisse imaginer les conséquences que ça peut avoir sur la compétition
avec
mondiale.
Avec des partenariats techno avec d'autres pays comme Israël ou pas ?
Partenariat avec Israël, vous avez tout à fait raison. Israël, IDE, la société israélienne, a construit une station à Tianjin. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le dessalement est aussi une arme pour les programmes stratégiques de la Chine, la Belt and Silk Road Initiative,
par exemple. La route de la soie.
Voilà.
Merci beaucoup, Franck Galland, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur France24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.